Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque samedi, nous plongeons pendant une heure dans le documentaire biographique à travers le portrait d'un homme ou d'une femme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans Toute une vie. Je n'ai absolument rien à dire que le peu de choses que je dis en scène. Göttingen, le mal de vivre, l'aigle noir, sont ses voyages, ses amours fous, le désespoir, le père qui meurt, l'enfance meurtrie. Ma vie, finalement, je crois que je la radote à mon piano. Pour cette dernière émission de la saison, Stéphane Bonnefoy et Anne-Thérèse Franchini vous proposent Barbara, 1930-1997. C'est toute une vie sans phare et sans artifice.
On l'a laissé plus partir. Voilà, je me souviens de ça parce qu'on pouvait plus partir quoi, du théâtre.
Ses yeux nous perçaient, c'était quelque chose de...
Comme le rock'n'roll, quoi, vous savez, c'est pareil que Johnny Hallyday, où c'était inouï, cette ferveur du public.
Et elle est rentrée et ça a changé ma vie.
Ça dépassait même ça, je pense, parce que là, trois quarts d'heure de rappel, je vous dis, c'est vrai.
Ce pied, ce profil-là, ce nez et ses yeux...
Au moment précis où elle entre sur scène, paf, où elle apparaît, les salles entières se levaient dès 1987.
Comment expliquer qu'une telle présence avec juste un pied, c'est quand même fou. Les gens en crient, comme ça en pleurent. En plus, c'était la dernière. Ça vous prend là au fond des tripes, d'énormes.
Quand elle sortait de scène, personne ne le voyait, mais elle était dans un état. Les gens ne se rendaient pas compte, évidemment, ils ne faisaient pas méchant, mais encore une autre. Donc, bon, elle était épuisée, et puis bon, il fallait arrêter, quoi, il fallait laisser.
Oh, quand je dis j'écris des chansons d'amour, non, enfin j'ai fait peut-être trois chansons et il se trouve que ce sont des chansons d'amour.
Oui, oui mais c'est ça, uniquement oui. Des chansons d'amour.
Oui, oui, oui.
C'est ce que vous aviez à dire.
Spécialisé dans les chansons d'amour.
Barbara, une femme passion en automne. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Perret. Septembre 1987. Barbara a 57 ans et chante pour la première fois au Théâtre du Châtelet. Voilà 6 années qu'elle n'a pas donné de récital sur une grande scène parisienne. Le double album de ce concert est publié au mois de novembre 1987, 20 ans après la mort d'Esther Brodsky, sa mère, disparue le 6 novembre 1967. C'est un autre 6 novembre, en 1993, que Barbara revient chanter sur la scène du Châtelet. Et c'est un 6 novembre encore que paraîtra son dernier album, une année avant de disparaître, le 24 novembre 1997. L'automne sera la dernière saison de Barbara. Magnifiée dans cet enregistrement du Châtelet 87, où la chanteuse se livre jusqu'à l'épuisement, au dépouillement de sa voix. Un concert au parfum de premiers adieux.
Perlimpinpin.
Perlimpinpin, tu sais, c'était quand on avait des petits roux-doudous, des trucs qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Et puis de la poudre de coco, comme ça, tu vois, c'est ça, perlimpinpin, c'est en fait, c'est faiseur de pluie, c'est la magie.
Et moi, d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens.
Tu vois ce que c'est, des roux-doudous?
Au bout de mes doigts. C'est fou que je vois un mirage. Oh, ne partez pas, ne craignez rien. Je suis restée l'étrangère que vous aimiez naguère. Ce fut un long détour avant que je revienne. J'ai bouclé mon parcours, j'ai traversé la Seine. Ce fut un long détour, mais chanter me ramène à deux pas de l'écluse, à deux pas de la Seine, où chante ma mémoire.
Une petite fille qui est très proche de moi, qui m'a dit cette chose très étonnante l'autre jour, elle m'a dit « Quand tu chantes, tu vois tout. » Petite fille qui a 5 ans. dis, mais qu'est-ce que je vois? Elle dit, tu vois la mer et le soleil.
Pendant ce Châtelet 87, elle chante une chanson qui s'appelle Mémoire.
Valérie Louis.
Où là, elle fait allusion à vraiment, encore une fois, à son propre parcours. Elle dit, elle fait allusion à l'écluse où elle a commencé. Donc, 30 ans plutôt, hein, si je ne me trompe pas. 1957-87. Et elle dit, voilà, ce fut un long détour avant que je revienne. J'ai bouclé mon parcours, j'ai traversé la Seine. Puisque pour qui connaît Paris, l'écluse, c'est un petit cabaret exactement en face du Châtelet. Hein. Il vraiment suffit de prendre le pont et c'est, on trace une ligne et c'est pile face à face. Et bien sûr, moi, quand j'ai entendu cette chanson-là, je me suis dit, ça y est, elle envisage la fin.
Méfie-toi du temps qui passe, du temps qu'il fait, du temps qu'il fera, du temps des prunes, du temps des cerises, de quoi qu'on t'en dise. Méfie-toi, la vie s'en va sans crier gare, il faut en faire une raison. Et bien te dire que Saint-Lazare seul peut parler de résurrection. Y'a pas que sous le coup des bombes qu'on passe de vie à trépas. On a vu pas mal de monde crever pour bien moins que ça. Et ne perds pas de vue, mon vieux, qu'un homme prévenu en vaut deux.
Barbara, elle ne veut rien dire.
C'est vrai, ça. Barbara. N'est-ce pas, Barbara?
Mais les chansons que vous chantez sont de vous?
Oh non, 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 pas non, toujours. Non, non.
Vous voyez qu'elle a parlé.
Méfie-toi du temps qui passe, du temps qu'il fait, du temps qu'il fera, du temps des prunes, du temps des cerises, quoi qu'on t'en dise. Méfie-toi. Méfie-toi.
On est quasiment au milieu des années 50, hein, 54-55, et là, enfin, elle va être admise à l'écluse. Mais elle va monter assez vite les échelons et puis elle va finir par devenir la vedette de l'écluse, celle qui passe en fin de soirée, aux alentours de 23h. Bon, un jour un journaliste l'appellera la chanteuse de minuit, c'est le nom lui restera. Et elle chantera une demi-heure, elle restera 6 ans à peu près, la vedette de l'écluse, avant qu'elle quitte ce petit cabaret dont elle parlait toujours jusqu'à la fin de sa vie avec une tendresse et une reconnaissance profonde. Même si elle a toujours dit que c'était vraiment difficile, c'était plus difficile, disait-elle, de chanter devant les 60 spectateurs de l'écluse que devant les 2000 ou 2500 spectateurs du Châtelet ou les 6000 du Zénith, parce que les gens, ils sont là, vous les voyez, et qu'ils ont mangé là, et qu'on entend le bruit des verres, éventuellement des fourchettes. Enfin, c'est très, très compliqué. Et puis, elle dit qu'au début, elle entendait les gens dire « Ah, mon Dieu, mais c'est quoi ce profil? C'est quoi cette femme avec ce nez terrible, etc. ?» Elle l'entendait. Elle disait « Heureusement, elle était très myope. » Elle les voyait pas vraiment, mais elle les entendait.
Quel genre de chanson préférez-vous?
Pour moi?
Oui,
pour moi. Oh, je ne sais pas, il y a un genre de chansons que je préfère. Enfin, j'aime toutes les chansons que j'ai choisies et que je chante, évidemment, qui sont des chansons d'humour, qui sont des chansons jamais méchantes, mais comme ça, enfin, d'humour noir ou un peu canaille, un peu...
Et vous composez quelquefois?
Non, j'ai fait 2 chansons pour moi. Et non, je ne comprends
pas. Une passade, une fantaisie.
Oui, enfin...
Mais cependant, vous avez quand même des études, vous avez fait le conservatoire, j'ai lu ça
quelque
part.
Oui.
Et vous jouez d'un instrument?
Ah, j'ai fait le conservatoire de chant, j'ai jamais appris. Oui, je m'accompagne au piano, mais j'ai jamais appris le piano.
Ça ne vous gêne pas pour interpréter?
Non, pas du tout. Enfin, non, je crois que je suis libérée de mon piano. Enfin, je joue très mal.
Elle n'est pas sortie de sa gang, elle était restée dans cette façon de chanter réaliste.
Michel Tolliver.
Qui peut-être ne lui allait pas très bien et de toute façon n'était plus à la mode, si j'ose dire. Et donc, là où elle a commencé à avoir du succès, c'est quand elle est sortie de ça pour écrire ses chansons, chanter ses textes et devenir elle-même, c'est-à-dire ne plus chercher à faire de la chanson réaliste.
Barbara, pour moi, a quand même inventé une forme de chanson moderne. Donc, je pense qu'elle a révolutionné la chanson. Elle a révolutionné la chanson à plusieurs titres, parce que c'est l'une des toutes premières femmes auteurs, compositrices, interprètes. Hein, il y avait avant juste Nicole Louvier et Anne Sylvestre. Que ça va être la première à écrire ses textes de façon si simple et si imagée et si abordable. Que c'est la première à écrire des textes aussi sensuels. Je ne lui vois pas de modèle.
Tiens, il pleut.
Vous savez, le mot compositeur, je sais pas si je suis compositeur, je fais des chansons que j'ai envie de chanter. Je crois qu'elles me vont bien parce que je les écris ça pour moi.
La dernière nuit, qu'est-ce que c'est?
C'est une chanson qui n'a pas de titre encore. Et je crois que c'est une chanson d'amour.
Oui, vous voulez vous mettre au piano, la chanter pour nous?
Choix, oui.
Alors nous en avons, nous, la primeur.
Oui.
Merci.
Et puis c'était l'anti-yéyé. Je veux dire, elle est quand même apparue en plein yéyé. Et c'était pas Sylvie Vartan, quoi. C'était l'anti-Sylvie Vartan. Enfin, je pense qu'elle inquiétait, ouais. Et puis alors, ce physique étrange, complètement à l'opposé des critères, des canons de beauté de l'époque. Aujourd'hui, en général, on la trouve très belle, Barbara. En tout cas, sur certaines photos, on la trouve magnifique. À l'époque, c'était pas du tout... Je veux dire, c'était la mode, elle est aux blondes un peu charnues. Barbara était... très très noire, très très brune, avec un grand nez et maigre. C'était pas du tout Brigitte Bardot. Et puis elle disait des choses étranges, elle chantait des chansons très fortes.
Ce qui est très important, c'est ce qu'elle disait. J'ai commencé à écrire mes chansons parce que je n'aimais pas les chansons d'amour qui étaient écrites à l'époque, parce qu'elles étaient écrites par des hommes et elle parlait d'amour comme des hommes.
Et elle était excessive en tout. Et on voyait bien qu'il fallait pas l'ennuyer et surtout pas marcher sur ses plates-bandes. Donc oui, je pense que les gens, certains ont été un peu apeurés. C'est pour ça qu'on disait chanteuse intellectuelle en plus, parce qu'elle venait de cette rive gauche où quand même dans les cabarets souvent on chantait les poètes. Mais elle ne chantait pas les poètes. Elle chantait des chansons de femmes, très simples, écrites comme une lettre, où elle disait, elle était quand même capable de dire à un homme en 1959, les femmes avaient le droit de vote depuis très peu de temps. Et les femmes, je crois, n'avaient pas encore le droit d'avoir un compte en banque à leur nom. Faut quand même se souvenir de ce que c'était que la France de ces années-là. Et elles avaient évidemment pas le droit de prendre la pilule et encore moins, et pas de se faire rembourser l'IVG. Enfin, faut réaliser que là, on a une femme qui arrive et qui dit...
Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Et ça, c'est écrit par une femme 2 ans ou 3 ans après que son grand ami Jacques Brel ait écrit « Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main ». Donc, on a... deux amis intimissimes que sont Brel et Barbara, et 3 ans plus tard, une femme qui écrit ses premières chansons et qui écrit « Si tu reviens pas, n'attends pas à ce que je te pleure trop longtemps, j'irai faire mal avec d'autres ».
On réalise plus ce que c'était, mais c'était sacrément gonflé. Ah oui, ça devait faire peur un peu.
Ça fait rire, toi ?
Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai fait ça, Tony.
Je reconnais les pas.
Ah, je connais. Ça fait 10 ans qu'on marche ensemble.
Voilà. C'est une fille qui ne peut pas réussir. Vous avez vu son écriture?
Oui. Tiens, je crois que je sais qui c'est.
Voilà, et pour conclure, c'était au lendemain de Bobino, je rencontre un autre directeur artistique qui me dit « Alors, ta Barbara ?» Je dis, ma Barbara, oui. Il me dit, bah quoi, c'est une ratée qui a réussi.
Ah, ça, c'était un très joli mot, ça. Hein? Un très joli mot. Enfin, je sais pas si je suis une ratée, je sais pas si j'ai réussi. Mais ce que je sais, c'est que je fais ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire. Et tant qu'il y aura du public, mon public, tant que je ne les perdrai pas, eux, ils ne pourront absolument rien contre moi. Parce qu'ils ne peuvent pas, contre une vague d'amour comme ça, on ne peut rien faire. Tu peux pas savoir. Ce qui s'est passé, c'est que le public, ce qui m'a fait de la peine, le public a été peiné par les critiques. Parce que lui, il l'a lu. Alors, il a écrit. Faut pas lire les critiques, faut pas... Ils avaient tort, d'ailleurs, parce qu'en fait, encore une fois, les critiques étaient tout à fait justifiées, en ce qui me concerne, moi. Et ils sont venus, vraiment, défendre leur vieil enfant. C'est à eux, il fallait pas toucher. Si je les perds, eux, là, j'ai tout perdu.
Je vous dirai du c'est bout ça. Des lèvres, je vous aime.
C'est la seule chose.
Vivre mon rêve.
J'ai pas de souvenirs d'enfance.
des odeurs, des villes, des paysages, des départs précipités.
J'ai gardé de cette époque le goût du voyage, de la clandestinité du précaire, des parties de cartes à l'abri dans la chambre du fond, des départs à la sauvette, du bruit des coups dans la porte, des Yala Gestapo, des 15 chevaux avec leurs roues à rayons jaunes, et une certaine tendance à la provocation, à une agressivité parfois inspirée par la peur. Aujourd'hui encore, si l'on frappe ou l'on sonne, je sursaute, et il m'arrive de courir me cacher.
Je n'ai pas de passé, je n'ai pas d'avenir. J'ai l'instant présent. Très fort. Violemment.
Nous fréquentons une école où j'ai un jour la surprise de voir à la sortie mon père qui m'attend. Il est en militaire. Il n'est là que pour 2 heures qu'il va passer avec mon frère et moi. Puis il me raccompagne, sanglotante. Je le supplie de rester. En vain. Je le vois encore s'éloigner, se retourner, revenir me prendre dans ses bras. Pour me calmer, il sort alors de sa poche 14 sous, avec lesquels, le cœur lourd, j'achèterai du zan. Le zan, sous toutes ses formes, ne me quittera plus. Bâton de réglisse, ruban, rouleau, petit grain, réglisse à la violette, j'en aurai partout et toujours sur moi. Plus tard, sans en connaître l'effet nocif sur la tension artérielle, j'en distribuerai à tous mes amis. Sans en avoir conscience, je rechercherai toujours cet instant heureux. Mais cette relation de père à enfant, je ne la connaîtrai jamais plus.
Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est très important.
Barbara, c'est quand même, quand on regarde la jeunesse de Barbara, l'enfance de Barbara, c'est une accumulation de coups du sort assez terrible. C'est-à-dire que d'abord elle naît avant la guerre, dans une famille juive, elle connaît la pauvreté avant guerre, c'est-à-dire elle sait ce que c'est que d'avoir faim et d'avoir froid. Famille juive, ce qui veut dire évidemment on se cache pendant la guerre, même si elle ne se plaignait jamais et qu'elle disait j'ai plutôt eu de la chance par rapport à tant d'autres. Tant d'autres ont eu moins de chance, parce qu'en effet, dans sa famille, personne n'a été déporté, personne n'est mort. Mais enfin, quand même, les enfants séparés des parents pendant de longs mois, mis dans d'autres familles, cachés, retrouvés, etc. Il y a l'inceste, quand elle a 10 ans et demi, et ça va durer plusieurs années. Il y a le fait que cette petite fille qui était obsédée par l'idée d'être pianiste, à l'adolescence, elle a une boule qui va lui pousser au creux d'une main, et on va l'opérer 7 fois. Et on lui apprendra qu'elle ne pourra pas être une pianiste classique. Et puis elle avait toujours dit ce qui peut-être... Enfin, elle a toujours dit ce qui aurait pu peut-être me détourner de chanter, c'était d'avoir un enfant. Et elle n'a pas pu avoir d'enfant. Très vraisemblablement, elle est tombée enceinte au début des années 50. En Belgique, elle a fait une grossesse extra-utérine. Elle aurait été opérée, mal opérée. En tout cas, après, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, qu'est-ce qui lui restait d'autre? Enfin, on voit que vraiment la chanson a été pour elle, je pense, une espèce de planche de salut, une bouée de sauvetage, quoi. Et elle s'y est accrochée, chanter ou mourir. Et d'ailleurs, quand elle n'a plus chanté, elle est morte.
J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent, il le sait. J'ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler? Et que lui dire? Que je trouve le comportement de mon père bizarre? Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire. Parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leurs terribles secrets. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours ressurgi. Sûr, il m'a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après.
On est en 1963, elle chante encore à l'Écluse. Il y a un jeune, un type qui aime beaucoup la chanson à texte et qui décide d'organiser des soirées de découverte de chanteurs à texte. Et il programme Barbara, fin 63. Il y a une femme qui est là, qui présente la soirée. Et l'après-midi, elle voit Barbara écrire et griffonner et rayer et réécrire et déchirer, enfin s'acharner sur un texte, quoi, visiblement. de chansons qu'elle va créer le soir même. Elle est assez intriguée de voir cette femme, apparemment possédée par une forme d'écriture, insatisfaite de ce qu'elle écrit, puisque ne cessant de raturer, mais poussée, encore une fois, par une sorte de besoin, visiblement, d'écrire ce texte-là qu'elle veut absolument écrire. Et le soir même, elle va créer la chanson et c'est...
Il pleut sur Nantes. Donne-moi ta main. Ce ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a bien longtemps déjà, la ville avait ce teint blafard. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était alors inconnue. Je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir à l'heure de sa dernière heure. Après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé longtemps, je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'est revenu. 25 rue de la Grange au Loup. Je m'en souviens du rendez-vous.
Mon père, parti voici 10 ans, jamais réapparu, jamais de nouvelles. Qui m'appelle? Comme une somnambule, je demande l'hôpital à Nantes, les urgences, la chirurgie, les accidentés. Qui? Quoi? Quel nom? Je vais voir. Non? À quelle date? Je n'en sais rien. Non, personne. Je regrette. Un déclic, on a raccroché. Je reste là sans voir, sans penser. Puis brusquement, je redécroche, redemande l'hôpital, la même voix. Je vous passe la morgue. Une douleur brûlante glisse dans mes reins. Oui, dit une autre voix. Vous êtes sa fille. Nous avons recherché la famille sans résultat. Votre père est mort il y a 48 heures. Je vous passe la réception. Quand je reprends conscience, tout est sombre. Le téléphone pend, inerte. Je vais jusqu'à la lumière. Mes gestes sont lents, précis, pesants. J'enfile un manteau, prends mon sac, griffonne un mot à l'intention de ma mère. Mon père est mort à Nantes. Je pars.
Avant de mourir, se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, à l'ombre du jardin de pierre, je l'ai couché dessous les roses. Je crois que tranquille il repose. Mon père, mon père.
J'écris cela avec des larmes qui me viennent. C'est quoi ces larmes? Qu'importe, on continue.
Et je me souviens, ce ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
Elle crée la chanson. Dans la salle, il y a quand même Denise Glaser, la grande journaliste de chansons des années 60 à la télévision, qui va tomber tellement dingue de la chanson qu'elle va décider d'inviter Barbara dans son émission Discorama pour parler de Nantes qui n'existe pas encore sur disque et pour cause. Et puis il y a le patron de Philips qui est complètement sidéré par cette chanson qui va lui proposer un contrat. Mais moi, ce qui me frappe surtout sur Nantes, c'est la façon dont elle va faire évoluer la fin de Nantes tout au long de sa vie. Et vous connaissez la fin, hein. Je l'ai couché dessous les roses. Je crois que tranquille il repose. Eh bien, ces mots-là, elle va les changer petit à petit. Et il y aura au moins 3 versions qu'elle va chanter au fur et à mesure de sa carrière. Je l'ai couché dessous les roses. Je veux que tranquille il repose. Ça, elle chante ça longtemps. Quand elle arrête, elle fait ce qu'on a appelé ses adieux à l'Olympia. Je l'ai couché dessous les roses. Je sais que tranquille il repose. Comme si elle était apaisée. Et puis après, elle reprendra la chanson. Je l'ai couché dessous les roses. Je crois que tranquille il repose. C'est toujours cette obsession du pardon qu'elle n'a pas pu lui donner. Et jusqu'à son avant-dernier concert, c'était à Nantes, au mois de mars 1994. Et quand elle a chanté Nantes ce soir-là, je crois qu'elle a dit « Je veux que tranquille il repose ». Bon, elle était un peu dans une semi-pénombre, mais pour moi, elle a pleuré. Et il y a eu une espèce d'ovation dingue, et il y avait une intensité dans la salle que j'ai rarement vue. Et c'est quand même la chanson qui l'a fait connaître. C'est une chanson sur son père. C'est la chanson qu'elle portera jusqu'à la fin. Et on ne peut pas ne pas remarquer que son plus grand succès, par ailleurs, c'est L'Aigle Noir, qui est aussi une chanson qui évoque son père, et qui est aussi une chanson qu'elle chantera jusqu'à la fin. Et qui est aussi une chanson dont elle changera un petit bout du texte, puisque dans la toute première version, il y a cette phrase, on disait, hein, « Au matin, je me suis éveillée, l'oiseau m'avait laissée seule avec mon chagrin. » Peut-être trouvait-elle ça trop explicite, en tout cas, elle ne l'a jamais chanté.
Je pense que tout est amour. Enfin, ma religion, c'est l'amour. Si je n'avais pas chanté, sans doute j'aurais été bonne sœur ou putain. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre jusqu'à la déchirure, passionnément.
Je les aime bien toutes, finalement, les chansons que j'ai faites. C'est un peu prétentieux de dire ça, non, mais je les aime bien toutes. Mais vous, si vous en avez une que vous préférez, peut-être que vous ne les connaissez pas d'ailleurs, mais s'il y en a une que vous préférez,
Moi, je voudrais bien une chanson gay.
Chanson gay ?
Ouais.
On ne pourra jamais prétendre tout comprendre, évidemment. Mais bien sûr que ça éclaire tout d'une façon tout à fait différente. Toute l'œuvre. Et peut-être aussi tout le pouvoir de fascination qu'exerçait cette femme. Parce que je pense que le public sentait, incidemment, quelque chose de très puissant, de très profond, sans forcément comprendre quoi. Mais il sentait une intensité, qu'il y a très peu dans la chanson, une nécessité absolue. On sentait bien qu'il se jouait dans ses chansons et dans la façon dont cette femme abordait la scène et son rapport au public, qu'il se jouait quelque chose d'essentiel pour elle, quelque chose de vital. C'était, elle disait, c'est chanter ou mourir. On voyait ça, mais on ne pouvait pas vraiment comprendre pourquoi. On se disait, bon, elle est un peu barrée, c'est une artiste, elle est folle, folle et géniale. Mais en fait, c'était pas ça. Parce que quand on lit les mémoires, alors il y a évidemment cette révélation de l'inceste, même si elle ne prononce pas le mot, même si elle n'écrit pas le mot, ça ne fait aucun doute, on voit ce cheminement où cette femme, cette jeune femme, cette petite fille d'abord, puis cette adolescente, cette jeune femme, cette femme, à travers la chanson, va se reconstruire.
En fait, les mots, au lieu de rester dans ma mémoire visuelle, se sont agglutinés dans ma mémoire tactile. Et aujourd'hui, je sais que ce sont ces mots-là qui bougent au bout de mes doigts, qui cherchent à sortir du bout de mes doigts, de tout mon corps. En chantant, je retrouve cette sensation de mots jadis avalés, déglutis, engloutis, qui remontent douloureusement par ma gorge avant que je ne les exhale avec violence ou douceur dans une chanson. Comme il est expliqué dans Lily Passion. Et les mots qui sortent de ma gorge, je ne les connais pas. Des mots qu'on a plantés là, des mots qui me font mal et qui m'étouffent. Alors je les crie, je les vomis pour pouvoir respirer, pour vivre.
C'était en 1980. Ouais, c'était Charles Maroni qui m'avait appelé pour aller dans son bureau.
Gérard Daguerre.
Il avait dit, il y a quelqu'un qui veut vous voir, je ne savais pas qui c'était. C'était Don Barbara, qui m'avait proposé de travailler avec elle pour jouer à Panthère avec elle. Et elle m'avait donné certaines conditions. Avant de dire oui, il fallait que je passe un test, que j'aille habiter avec elle 4 jours dans sa maison. Voilà, comme ça, sans jouer. Peut-être jouer quelques notes de temps en temps. Mais c'était surtout Parler, vivre, écouter. Parler, oui. Voulais savoir comment j'étais, qui j'étais. Qu'est-ce que je pensais de la vie. J'avais une contrariété ou quelque chose, elle le voyait tout de suite. Mais l'histoire, ça va pas aujourd'hui. Bon, allez. Mais elle le voyait, elle savait, j'avais même pas besoin de lui parler. Elle sentait tout. Tout. Voilà. Et puis au bout de ces 4 jours, elle m'a dit, je pense qu'on pourra travailler ensemble. On a travaillé, j'ai travaillé avec elle jusqu'à sa mort. Voilà, jusqu'au dernier album. Et voilà, on s'est plus quittés.
Oh, je me décrire. D'écrire, ça me paraît un peu prétentieux de ça. J'ai eu envie d'écrire, j'ai écrit. Et une fois que j'ai eu écrit, ben c'est clair, j'ai eu envie de chanter les chansons en studio, ça c'est vrai. Et surtout, j'ai eu envie de faire les arrangements. Enfin, c'est un mot prétentieux, mais ce que j'entendais musicalement, moi-même, et c'est ça qui s'est passé. Mais il faut être précis sur les choses. Moi, je ne sais pas écrire la musique, hein, la connaissant assez mal. Donc, ces orchestrations, elles ont été chantées et relevées. C'est-à-dire, je chantais le vient, ça j'entends. Ça a été relevé par Daguerre et après ça a été donné aux musiciens.
Barbara me chantait des choses, me disait où elle me jouait sur son petit piano. J'entendais des trucs des fois qui n'est bon, très très difficile à décrypter. En fait, c'était un peu comme des hiéroglyphes, quoi, si vous voulez. Là-dedans, il faut prendre l'essentiel. Donc moi j'écrivais, mon rôle était d'écrire des partitions pour Marcel Azola ou pour Tomassi ou les gens qu'on a eu avec nous, ou Henneken, et leur faire au moins un guide, sinon c'était impossible, qu'ils puissent jouer des notes, qu'elles me chantaient elles, que moi je retransmettais sur un papier à musique, et je donnais ça aux musiciens, voilà. Si on lui faisait pas ce qu'elle voulait, ça pouvait être pas terrible, mais on le faisait pas. Si c'était une improvisation dans son sens un peu qui était, je dirais, géniale, quoi, parce qu'il faut rentrer dans le... Ça pouvait lui plaire, mais c'était rare. Personne n'est parti dans des impros. Non, enfin, moi je me rappelle pas avoir improvisé. Non, pas avec elle. Non, pas trop. Je dirais pas des noms, mais j'en ai vu craquer, oui, bien sûr. J'en ai vu partir dans la rue. Je l'ai vu, oui.
Jamais vu ça. T'entends un truc, et d'une t'entends un autre truc, c'est la même place. C'est fou, non? Tu prends un arbre, et puis tout à coup ça devient un canard, et puis tout à coup c'est le même. C'est des noms, hein, hein. C'est la chose la plus mystérieuse.
Elle m'a beaucoup appris, Barbara. D'être patient, la patience. Répéter 6 mois avec elle, avant de le faire châteler, par exemple. Personne ne fait ça. 6 mois de répétition. Tous les jours. Dès que je passais la porte, là, ça y est, ça, on était dans le vif du sujet. Là. Tiens, ce qu'on a fait hier, c'est pas bien. Ou il faut tout recommencer. C'était souvent le cas, d'ailleurs. Parce qu'elle écoutait, elle faisait des... Elle avait un petit poste avec des cassettes. Quand moi, je partais, elle écoutait les cassettes à la nuit, elle. Pour écouter ce qu'on avait fait. Alors souvent, j'arrivais le matin, elle me disait, mais ça va pas du tout, ce qu'on a fait. Mais tu te rends compte, c'est très mauvais. Bon, il faut recommencer tout. Au début, quand elle était... après, malheureusement, elle avait commencé à décliner un petit peu. Même. Donc, on travaillait un peu moins. Mais moi, je me suis retrouvé des fois 2-3 heures du matin chez elle, en pleine nuit, à continuer à jouer des morceaux. C'était magnifique, d'ailleurs. Je me rappelle des soirs d'été où j'entendais ces musiques pour moi.
On va regarder les micros de bouche, je vais te dire...
C'était génial. C'est pour ça que je vous dis... Enfin, moi je le dis, mais je pense que c'est très très difficile de rentrer dans cet univers. Ça prend des années. Et ça s'oublie pas.
Les chansons, moi c'est complètement ma vie. Alors quand je les chante, c'est quand je suis complètement là, ou avec les gens, ou pour que je les ai écrites, avec qui, dans les paysages, je les ai écrites.
Parce qu'on vit avec, moi je vis avec tout le temps. Ouais. D'ailleurs, elle m'avait dit, le jour où je vais disparaître, t'auras beaucoup de mal à... Elle avait raison.
Il faut savoir aussi refaire l'amour à chaque matin. Je veux dire par là que... se reconquérir. J'aime les hommes. Je ne peux pas vivre sans hommes. J'ai les reins extrêmement fragiles et les hivers sont rigoureux.
Rendez-vous et de vous perdre en courage. je soudain me prenais là.
Quelle femme fait même encore aujourd'hui, des chansons d'une telle sensualité. C'est avec Barbara, le cou, les reins arrivent dans la chanson. Je veux dire, ces mots-là, les parties du corps, le corps est incarné subitement dans les chansons de Barbara. C'est parce que ton épaule à mon épaule, ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou. Je veux dire, faut chanter ça, ça n'existait pas avant.
C'est parce que ton épaule à mon épaule, ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou. C'est parce que dans mes reins, quand ton souffle me frôle, c'est parce que t'aimais. C'est parce que joue à jour, c'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit, quand tu dis viens, je viens, tu souris, je souris, c'est parce qu'ici ou là.
L'amour physique, l'amour sensuel, la rupture, comme choix, d'amour, ça n'existait pas.
Je t'aime, que je préfère m'en aller, car il faut savoir se quitter avant qu'elle meure le temps d'aimer.
J'ai eu accès à une correspondance de Barbara avec l'un de ses amants. 4 ou 5 ans avant d'écrire la chanson que je citais, là, c'est parce que je t'aime que je préfère m'en aller, elle lui disait par lettre exactement la même chose. Elle lui disait, voilà, je t'aime. Au nom de cet amour, s'il vous plaît, quittons-nous. Ne laissons pas l'amour s'abîmer dans l'habitude. Encore une fois, on est stupéfait et pour ma part fasciné par la cohérence entre la femme privée Barbara et la femme chanteuse, et donc on comprend ce qu'elle voulait dire quand elle disait « je ne suis pas une chanteuse, je suis une femme qui chante ». Elle chantait sa vie, et elle écrivait des chansons, exactement comme elle écrivait des lettres à ses amants. Barbara était une amoureuse, enfin, voilà, ça c'est évident, et ça a fait partie, très vraisemblablement, de ce qu'on peut appeler un chemin de reconstruction. Voilà, de aussi restaurer sa propre image et la propre image de son pouvoir de séduction. C'était une énorme séductrice, Barbara. C'était une séductrice. Et quand elle repérait un homme à son goût, elle n'avait pas beaucoup d'inhibition, on va dire, pour essayer de le séduire. Elle savait ce qu'elle voulait. Et en général, j'ai bien cru comprendre qu'elle arrivait à ses fins.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le voyage ?
Oh, c'est bête comme chou, c'est partir. J'ai besoin de bouger, je peux pas m'installer dans un lieu et m'y installer et dire bah, je suis là, et alors dans 5 ans, je sais pas du tout, si demain je veux pas prendre tout et m'en aller, je sais pas. Toujours une valise ouverte.
Je m'en vais, je n'abandonne pas la scène, je n'abandonne rien. Je ne peux pas revenir tous les ans faire événement voici, parce que pour moi ça ne veut rien dire, je trouve que c'est presque une malhonnêteté. Si je réécrivais, je réécrirais les mêmes choses car je pense les mêmes choses. Je pars parce que tout à coup... J'ai envie d'aller.
Non, je voudrais vous dire quelque chose d'abord. Je voudrais vous dire que ce qui s'est passé là pendant 3 semaines, d'ailleurs le spectacle que vous avez fait, parce que finalement c'est vous qui avez fait ce spectacle, c'était tellement prodigieux, tellement extraordinaire que personne n'en est revenu, personne n'a compris, moi encore moins quiconque d'ailleurs, parce que j'ai vécu complètement enfermée dans cette loge, de ma chambre d'hôtel à la loge, de la loge à vous, pour ne pas perdre une parcelle de cet amour que vous m'avez donné. Je peux vous dire que c'était une chose exceptionnelle, que c'est jamais arrivé, que ni les gens de métier, ni les autres ne comprennent ce qui s'est passé. Peut-être vous et moi. Peut-être vous et moi.
On était sidérés. Elle avait connu la pauvreté, l'insuccès des années à chanter dans un cabaret de 60 places, puis la consécration à Bobino en 65, puis la très grande consécration en 66. Et là... elle est à l'Olympia de nouveau en vedette en 69 et elle décide d'arrêter. Enfin, je veux dire, ils étaient sidérés, elle en avait parlé à personne. Alors, faut quand même pas oublier que 2 ou 3 ans avant, il y avait eu les adieux de Brel sur cette même scène de l'Olympia et qu'elle aimait beaucoup Brel et que je pense que ça l'avait forcément marqué. Ces gens-là, les Brel, Barbara, Brassens, Ferré, ils chantaient 300 soirs par an. Ils traversaient la France, ils faisaient 500 km dans la nuit en voiture. C'était des vies absolument infernales, il fallait une force physique et morale et psychologique pour ne pas s'épuiser au bout d'un moment et pour que ça ne tombe pas dans la routine absolument ahurissante.
Je savais très bien que
chanterait. La sono est débranchée.
Je m'en vais
en tournée mercredi.
Vous partez mercredi en tournée déjà ? Au retour.
À retour, oui.
Oui, non, je promets, mais je reviens que dans...
C'est inexplicable et impalpable. Mais là, quand je suis en scène et qui sont là, je sais qu'il y a des choses qui passent entre nous, que nous comprenons, ce n'est pas à peine de nous dire ces choses-là. C'est comme si eux... Il m'avait enfanté, tu vois.
Parce que, je sais pas, quand on a une muse, on l'écrit.
Les chambres, vous n'êtes pas si souvent. Il faut venir. On vous aime.
Vous imaginez quand on est en tournée qu'il faut faire 400, 500 km dans la nuit. Elle dort ou elle dort pas. Elle arrive directement au théâtre. Quand les camions déchargent le matériel, elle est là. Elle va sur scène. Elle bouge plus jusqu'au soir. Voilà. Elle habitait le théâtre. Elle connaissait chaque coin, chaque recoin. Et en plus, elle était totalement déconnectée du monde extérieur. Elle ne voulait pas du tout, à 10 heures, à partir du moment où elle était dans le théâtre, il pouvait se passer n'importe quoi extérieurement. Elle n'était pas au courant. Elle ne voulait pas. Vous ne pouvez pas chanter un truc, surtout ces chansons, si vous avez dans la tête un événement qui vous prend la tête. Ça fait lui arriver à Pantin, quand elle a appris la mort de Georges Brassens. Évidemment, tout le monde avait dit, il faut surtout pas le dire à Barbara, il faut pas le dire à Barbara, mais il y a toujours un qui le fait. Vous savez pas qui est mort, voilà, et là, c'est parti. Et on a failli annuler la représentation.
Je passe des bras des gens de Saint-Étienne pour Bordeaux, enfin, ça c'est assez fou, ça. Ça c'est fou. Et j'en vois aussi les mêmes visages, les mêmes... C'est extraordinaire, ça. Et je les reconnais toujours, même sur des très longues années, sans les voir, oui. Ils sont d'ailleurs très étonnés parce que je dis, bon, oui, telle date, je vous ai vu, ça, vous vous appelez comme ça. Ça les étonne beaucoup. Mais moi, j'ai une grande mémoire de leur visage.
Dans deux jours, les représentations de Madame s'arrêteront. C'est l'échec commercial d'une aventure. Un échec que Barbara pressentait seulement lorsque nous l'avons filmé.
J'ai peur, une peur plus grande encore, parce que tu t'es entraîné toute une équipe dans une aventure, ça c'est déjà plus grave. C'est même très grave, être responsable.
Elle essaye le théâtre avec une pièce musicale dès 1970 qui s'appelle Madame. Et c'est un véritable fiasco, et les gens qui l'ont vue disent qu'elle était très mauvaise dedans. Alors après, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de se pencher sur l'histoire de cette pièce qui avait été écrite par Raymond Forlani, mais en fait, c'est elle qui avait insufflé le thème. C'est l'histoire, a priori, totalement rocambolesque et complètement éloignée d'elle, d'une tenancière de bordel en Afrique, dont un homme est amoureux, mais il ne vit pas avec, il va tuer ses différents amants, et elle, pour le sauver, elle va endosser la responsabilité de ses meurtres. Et cet homme commet un crime à cause d'elle. Et c'est finalement exactement la trame qu'on va retrouver en 1986, donc 16 ans plus tard, dans Lily Passion, où elle est poursuivie par un assassin qui tue à cause d'elle, à cause de sa voix, et elle va le sauver en allant vers lui pour qu'il cesse de commettre ses crimes. Et si vous tirez le fil, c'est exactement l'histoire de Au cœur de la nuit, l'une de ses chansons les plus mystérieuses, qu'elle a quasiment jamais chantée sur scène et qui fait allusion à son père. Chanson dans laquelle elle dit qu'elle est obsédée par le souvenir d'un être qui lui revient la nuit. Elle dit « Mais qui es-tu pour te revenir ? Et s'il le faut, j'irai encore tant et tant de nuits profondes pour te sauver de cette chose qui semble te tenir intranquille. » Voilà. Et finalement, c'est aussi ce qu'on retrouve dans ses mémoires quand elle dit « Je m'en veux d'être arrivée trop tard et de n'avoir pas pu dire à ce père « Tu peux dormir tranquille, puisque je m'en suis sortie. »
Pour comprendre la violence des colères, des douleurs qui les provoquent puis les accompagnent, il faut savoir que la scène porte à leur paroxysme toutes les émotions. Tout est multiplié, électrisé. Tu es seul à assumer tes erreurs et celles des autres. Tout est ultra rapide, intense. Tu es hors de toi. Cette exhibition de soi et de ses sentiments dont je ne pouvais plus me passer me faisait ensuite m'enfuir et me cacher longuement, malheureuse, désaccordée, jusqu'à l'heure de chanter à nouveau.
Comme un jour, comme une nuit, comme un jour après nuit. comme pluie, comme cendre, comme froid, comme rien, comme un ciel déserté.
Accident ou tentative de suicide ? Accident, c'est possible, parce qu'elle était déjà passée pas loin, parce que Barbara ne faisait pas attention, parce que Barbara se bourrait de somnifères pour pouvoir dormir et se bourrait d'en fait le matin pour pouvoir tenir. Tentative de suicide, c'est possible aussi. Je ne sais pas, ça fera toujours partie des... Voilà, on n'en a que ce qu'elle a bien voulu en dire, c'est-à-dire pas grand-chose, à part, et ça c'est quand même important, une chanson où elle en souriait, et qui est quand même une ode à la vie.
Moi, je me sens très souvent étrangère, pas du tout mystérieuse, mais très souvent étrangère. Et puis tout à coup, je suis extrêmement vivante, je repars. Je suis quelqu'un de très gai. En tout cas, autour de moi, les gens rient. La façon de vivre, je ne sais pas. On croit toujours que je suis triste, c'est pas vrai. Mais il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. Impossible.
Je crois pas, parce que je pense qu'elle me l'aurait dit.
Roland Romané.
Même si elle a été déprimée, je pense qu'elle n'a pas voulu vraiment se suicider. Parce que Barbara, si elle avait voulu se suicider, elle ne se loupait pas.
J'ai couru, attendu, retrouvé, perdu, aimé, heureuse, cruelle aussi, implacable souvent. Cet état d'amoureuse, je l'ai presque toujours connu. J'en avais besoin pour chanter. Dans ma vie de femme, j'ai échoué. Dans ma vie de mère, j'ai échoué. J'ai longtemps senti dans mon ventre un vide glacé. J'ai longtemps jalousé les femmes enceintes et détesté les nouveau-nés. J'ai souvent marché la main posée sur mon ventre. Aujourd'hui, je pense que c'était sans doute le prix à payer et que ma vie a été malgré tout belle et intense.
Bonjour. Je suis venue il y a 6 mois dans le quartier chez les hommes et les femmes m'ont demandé de venir. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je ne m'en irai pas avant que vous-même vous remontiez dans vos cellules, que je resterai jusqu'à la fin avec vous, parce que pour moi c'est très très important, que aussi je laisse une adresse, si vous avez envie de me joindre, j'ai l'autorisation de vos surveillantes et de l'administration pénitentiaire pour ça, pour que vous puissiez m'écrire et que toujours je réponds. Voilà ce que je voulais vous dire.
Ça c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite.
Sur la scène du Châtelet, elle crée donc cette chanson sur le sida. Et puis à la fin de l'année, elle annonce dans les colonnes de Libération, au cours d'une interview faite par un médecin qui s'appelle Gilles Pialoux, elle annonce qu'elle va se consacrer plusieurs mois à la lutte contre le sida. Concrètement, qu'elle va aller sur le terrain, c'est-à-dire dans les hôpitaux, auprès des malades qui sont isolés, qui sont délaissés par leur famille. Et... aux prisonniers, elle va aller en prison pour faire de la prévention, pour dire voilà, les préservatifs, mettez-les.
Vous êtes venu me voir, c'est moi qui viens vous voir. Ben voilà, maintenant.
Ah oui, bien sûr.
Au revoir, madame.
Bien sûr.
Ouais, quel nom ?
Et si vous avez d'autres questions qui vous tracassent, je pense qu'il faut absolument les poser. Et si vous voulez, moi je les pose pour vous, s'il y en a que vous n'osez pas poser. Si j'allaite mon enfant, je crois que c'est une question, je ne sais pas si elle a été posée, que je suis séropositive, donc j'ai le virus, donc je n'ai pas la maladie du sida, j'ai le virus, mais j'allaite mon enfant. Qu'est-ce qui se passe, docteur, là ?
À partir du moment où elle a démarré extrêmement fort, hein, parce que quand je la vois le 10 novembre 88, là, pour préparer l'interview dans Libération, dans les locaux de Libération, et je lui ai dit, mais si vous voulez, je pourrais vous aider. Ce qui était, et j'ai regardé sur mes carnets, donc le 10 novembre, elle est à Libération, elle doit m'appeler le 17 novembre, donc une semaine après. Et après, ça va. J'ai regardé, mais je ne sais pas ce que je faisais avec mon employeur. Parce que le 24 novembre, je suis à Précy. Le 7 décembre, je suis à Précy. Le 15 décembre, je suis à Précy. Enfin, elle était au taquet. Le 29 décembre, à Précy. Et en fait, chaque fois, j'arrivais à 15h, mais je partais à 7h, 8h, 9h du soir. Parce qu'on faisait les cassettes, après on discutait. On faisait une cassette sur, par exemple, la fellation. Voilà. Et la grossesse, machin, et la transmission entre femmes et femmes, hommes et hommes, etc. Et les traitements, et le vaccin, enfin j'ai retrouvé toute la liste, ce qu'après on déclinait en milieu carcéral.
Ça a fait rire, ça n'a pas été tellement entendu, ça, parce que d'abord on n'avait pas envie d'entendre ça. Puisque maintenant j'entends, on est en 97, donc je parle de 87, des choses que je disais en 87, c'est seulement maintenant que j'entends des choses comme ça. On donnait du Doliprane. Vous comprenez, je veux dire, c'était une chose. Alors, des préservatifs, on vous disait non, parce que, bon, les hommes vont pas en prendre, parce que sinon c'était admettre leur homosexualité, donc être discriminé dans la prison, et etc. Il n'y avait pas de préservatifs. Il n'y en avait pas. Et personne ne parle de rien, d'ailleurs, dans les prisons, puisque, bon, c'est vrai que je suis allé dans les prisons, et qu'à ce moment-là, il y avait très peu de gens qui parlaient. Aide ne pouvait pas pénétrer dans les prisons, parce qu'on disait, ce sont des PD, ils n'ont pas amené. Bon, il y avait tout ça. Mais tout ça, c'était quoi? Mais c'était la mort, tout ça.
Oh, les bébés! Alors, c'est Morgan, ce petit bébé?
Non, ça, c'est Mickaël.
Mickaël, le petit bébé. C'est mon bébé. Mais tu es très gentil, toi, petit Mickaël. C'est toi qui as parlé pendant le tour. Il y a un petit enfant qui a gazouillé à un moment donné. Hein? Tu es très mignon, Mickaël. Tu es très, très, très joli, Mickaël.
Sans mourir d'amour.
Il y a quel âge?
Sida, sida, les années d'amour.
Oui,
à mourir d'aimer.
Ah, vos camarades m'ont parlé.
Ils sont morts d'amour.
Elle se préparait une fête parce que vous venez de coucher. Je me souviens très bien.
Voilà que je tombe à faune. Un médecin prétend que je vais pouvoir chanter, de fait. Je peux chanter tant le médicament qu'il m'a prescrit se révèle miraculeux. Je me sens parfaitement bien en scène, la voix éclaircie, presque normale. Par la suite, au moindre enrouement, j'y ai repiqué. Ça m'a bouffé les os, bousillé les muscles, déréglé la tension et fragilisé les poumons. Je suis entrée dans un cercle infernal où, pour calmer mes douleurs ou traiter mes enrouements, je m'accrochais à la cortisone qui, cependant, me rongeait, me détruisait peu à peu.
Tout est arrivé véritablement en 81, quand sa voix a commencé à se dérober, on va dire. Parce qu'elle avait une corde vocale distendue. Chaque concert, c'était de plus en plus difficile. C'est-à-dire que, quand je dis que c'était devenu chronique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle allait faire un concert, il fallait sa piqûre pratiquement quotidienne. Et c'était souvent de la cortisone. Donc, quelque part, moi, j'étais pas très heureux. Elle, certainement pas non plus, mais ça lui permettait de, voilà. Et donc, je pense que c'est devenu comme ça. À chaque fois qu'elle devait chanter, elle avait besoin de ça. Et d'ailleurs, le plus beau spectacle, c'était en 81, c'était à Pantin. Et c'est drôle que je dise ça parce que c'est le jour où elle n'a pas pu chanter. Parce que là, les piqûres n'ont pas fait l'effet. Et donc, elle s'est retrouvée à faune. Alors, elle a annoncé au public, je ne peux pas chanter, on va vous rembourser. Et les gens, on les entendait dans la salle, c'est au début du spectacle. On ne partira pas, on ne partira pas. Donc, elle est rentrée sur scène, je suis rentré également. Elle a fait la première chanson qui, à ce moment-là, c'était Madame. Il n'y avait rien qui sortait, quoi, pratiquement. Et les gens, dans la salle, ont chanté à sa place. Et là, ça a été le bonheur total ou l'horreur totale, parce que on s'est dit, oh là là, si ça se passe comme ça, comment? Et puis donc, la première chanson s'est passée, la deuxième, les gens ont pris, et c'est tout le public qui a chanté tout le tour de chant de Barbara. Et nous, on était sur scène, on accompagnait le public et on pleurait.
C'est quand même étonnant, l'histoire de Barbara, quand on y pense, c'est quand même l'histoire d'une femme qui s'est sauvée par le chant et qui a perdu sa voix. Parce qu'on ne peut pas dire le contraire, elle a perdu sa voix. Alors, avant, Barbara, c'était une voix, enfin, on entend les premiers enregistrements, c'est une souplesse, une limpidité, une clarté absolue. Et puis, cette voix se met à se voiler, se casser, il y a des notes qu'elle n'atteint plus. Du coup, l'attitude de Barbara change en scène. À mesure que sa voix s'abîme et qu'elle la perd, elle gagne en aisance sur scène. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à bouger, mais à bouger énormément. Je veux dire, Barbara, ben, au Châtelet 87, puis à Mogador, puis au Châtelet 93, et dans toutes ses tournées, on la tenait plus. Enfin, elle traversait la scène à gauche, à droite, devant, derrière, tout le temps. Elle était extrêmement mobile. Et quand on pense au contraste absolu entre la Barbara des débuts qui était rivée à son piano, pour ne pas dire coincée à son piano, avec une voix parfaite, et la Barbara des dernières années qui ne cesse de bouger avec une voix cassée, on se dit que peut-être elle a compensé par la gestuelle quelque chose qu'elle avait perdu avec la voix.
déjà, les gens. Alors, on ne pourra pas faire le balance avec son âme.
C'est une femme avec vraiment une âme et un cœur de femme.
Vous dites que je ris. Bien sûr, vous avez l'air surpris. Bien sûr, moi, j'aime vivre.
J'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin.
Quand elle finissait de chanter L'Aigle Noir et que donc elle était en fin du spectacle, que les gens étaient debout et l'applaudissaient à tout rompre, et qu'elle retournait vers le fond de la scène, puisqu'elle quittait à ce moment-là la scène par le rideau du fond, en tournant le dos à la scène, sans micro, personne ne pouvait l'entendre, elle était là à crier sur scène « Je vous aime, je vous aime, je vous aime !» C'est-à-dire qu'elle était dans l'incapacité complète de faire ce qu'on lui recommandait, c'est-à-dire de se préserver un peu.
Barbara, elle était possédée. Quand on voyait son regard, on se disait, oh là là, elle est plus là, quoi. Elle est partie. Il y avait une forme de transe, et de plus en plus. Et ça s'est accentué avec cette voix qui perdait en puissance, vraiment.
Je crois qu'elle le savait parce qu'il me semble que quand elle a chanté Ma plus belle histoire d'amour à Tours, elle l'a chanté dans le public. Elle est descendue dans le public pour chanter au milieu du public Ma plus belle histoire d'amour, ce que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Et je pense, et elle le dit dans ses mémoires inachevées, dans Il était un piano noir, elle dit, je savais ce jour-là que j'arrêterais de chanter et que c'était fini. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le tout premier livre qui est paru sur Barbara, qui est le Jacques Tournier des éditions Segers, la dernière phrase du livre avant les textes de Barbara, c'est « Le jour où je ne chanterai plus, je me tuerai ». C'est pas tué le 16 mars 1994, mais elle est morte ce jour-là. Peut-être presque autant qu'en novembre 1997.
Barbara, une femme passion en automne. Avec Valérie Lehoux, Gérard Daguerre, Roland Romanelli, Gilles Pialoux, Alexandre Tarot et Michel Tolila. Lecture 2. Il était un piano noir de Barbara, Sarah Chaumette. Prise de son, Yann Fressy, Yvan Turc et François Rivalin. Mixage, Claude Niort. Archivina, Aude Vassin, Marine Decanse et Amélie Briand-Lejeune. Attaché de production, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omilianenko. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Perrin.
L'équipe de Toute une vie se joint à moi pour vous souhaiter un bel été à l'écoute de France Culture. Un grand merci à Daphné Abgral, Annelise Signoret de la documentation de Radio France, Christelle Rousseau et les documentalistes de l'INA, et les stagiaires Suzanne Saint-Cast, Julien Martin, Maud Jussaume et Juliette Drone. Toute une vie reste avec vous tout l'été, tous les jours à 11h et chaque samedi à 17h.